Konnichiwa les Smart et Konnichiwa les Marx, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Watashiwa Amida Rambardes. Et je suis accompagné de notre sensei de tout ce qui touche le Japon et New Japan, Ringside Sensei, Genki Deska.
Denska, Konnichiwa, bonjour, amiral. On va pas répéter. Bonjour à tous, très heureux d'être là pour ce catch-up spécial New Japan Dominion qui arrive ce week-end.
Ouais.
Magnifique show en perspective.
Exactement, donc comme on avait fait quelques podcasts sur la New Japan et sur notamment Wrestling Kingdom, hein, on avait fait un podcast qui résume un peu tout ce qu'est la New Japan, les différentes factions, les styles, les ceintures, les champions de l'époque. Et puis derrière, donc un pré-show et un analyse de Wrestling Kingdom. Et là, on reprend du service sur cette belle fédération japonaise. Et d'un, parce qu'en ce moment, le produit WWE, c'est quand même un peu pénible. Mmh. Hein, voilà, vous pouvez.
Oui, oui.
Voilà, d'ailleurs, Ringside, tu as fait la grève avec Hank lundi dernier, enfin, à propos du rôle la dernière fois. Hein,
on a assuré le service minimum quand même. Hein.
Voilà, ouais, vous avez quand même fait une review du show, hein, mine de rien.
Mmh. C'est vrai.
Donc du coup, la Dominion tombe à point nommé. Dominion, qu'est-ce que c'est, mon bon Ringside?
La Dominion, c'est le deuxième plus gros show de la New Japan, juste après le Wrestle Kingdom. C'est là où se décident les grands changements de ceinture, les grosses oppositions. Et ce week-end, ça ne va pas déroger à la règle, hein, puisqu'on aura le championnat IWGP, l'International Wrestling Grand Prix, qui est défendu par l'indéboulonnable, l'indétrônable, le légendaire Okada Kazuchika, qui a dépassé plus d'un an de règne, là, je sais pas, un an et demi qu'il est maintenant, et il affronte son rival du Bullet Club, enfin Bullet Club, on sait plus trop bien où il en est, mais c'est un Golden Lover, le Cleaner, Kenny Omega, un des rares à avoir réussi à battre Okada.
Eh oui. Tout à fait. Alors ça, ce sera le main event of the evening. On profite pour saluer Camille sur le chat. Hein, donc n'hésitez pas,
salut Camille,
durant l'émission, à intervenir, poser vos questions, vos avis sur tout ça. Alors Camille qui commence, hein, Konbawa également Camille, qui demande alors ce BOSJ, donc pour Best of Junior, of Super Junior, pardon, excellent ou excellent? Alors pour expliquer un peu ce que c'est le Best of Junior, c'est un tournoi, New Japan, ils aiment beaucoup les tournois, hein, il y a deux gros tournois annuels, donc il y a le G1 Climax.
Taiwan Climax pour les poids lourds, ouais, c'est ça.
Pour les poids lourds, qui permet aux vainqueurs de ce tournoi d'avoir un title shot à Wrestle Kingdom, hein, pour le AWGP Heavyweight Championship. Et donc, on a le BYJ qui, lui, est pour la division junior. Donc, effectivement, pour un peu les poids moyens et légers, un peu l'équivalent du Cruiserweight. Mais imaginez un Cruiserweight, des Cruiserweight qui sont bien bookés, en fait. Hein.
Et
c'est des tournois, par contre, c'est pas de tournois comme le Cruiser Classic à élimination directe. Hein. C'est un tournoi sur je sais plus combien de semaines. Où ils sont divisés par blocs, c'est un peu un championnat plus qu'un tournoi finalement.
C'est ça. Enfin, c'est puisque ça se joue au point, tous les matchs comptent. Il y a une intensité qui est rarement égalée quand c'est ces tournois-là qui arrivent. Ça permet à tout le monde de briller puisque tout le monde va essayer le potentiel pour gagner le tournoi. Personne n'est éliminé de suite. Donc, quelqu'un qui se fait battre va pouvoir ressortir un gros match derrière pour un peu redorer son image. Voilà, ça permet d'avoir des affrontements un peu inédits, des clans, des personnes qui sont dans les mêmes clans qui vont s'affronter à l'histoire d'un match. Voilà, ça permet énormément de choses. C'est toujours extrêmement bien booké. Et cette année, c'était un Best of the Super Junior qui était exceptionnel. Si vous n'avez pas eu le temps de le voir, si vous n'avez pas trop de temps, moi je vous conseille quand même d'essayer de vous choper la dernière journée du tournoi, donc l'avant-dernier show. Tous les matchs sont excellents. Il y a Marty's Curl qui est exceptionnel. Tout est assez phénoménal. Les deux finales de bloc sont assez extraordinaires. Et la finale du tournoi avec Hiromu Takahashi qui affronte le nouveau Bone Soldier, Taiji Ishimori, qui débarque de la Noah, hein,
qui a fait une introduction plus que remarquée à New Japan, hein, qui a vraiment assuré dans ce tournoi avec une belle intensité, un bon travail de personnage aussi, hein. Donc comme tu disais, il vient de la Noah, il a fait un court passage à la TNA,
voilà. Et puis rapidement, bon, il a quand même 10 ans de carrière, ouais, derrière lui, hein, à peu près, hein.
il s'est rendu
Il
compte
est.
que la TNA, c'était pas.
C'est ça. Alors, il y retourne,
C'était pas
il est
gérable.
annoncé
Ah oui?
pour un show anniversaire. Pour Slammiversary, il y participera quand même. Et il est affûté comme jamais. Voilà, il est
Affûté
à
comme
fond dans
jamais.
son.
Affûté comme
Comme
jamais.
jamais.
Bravo.
Qu'est-ce que je veux dire? Et il est habité par son personnage. Il a
Ouais.
fait, ils ont fait une finale contre Hiromu Takahashi qui était exceptionnel,
Qui était énorme.
énormissime. Voilà, donc c'est Hiromu Takahashi quand même qui a gagné le combat. Donc on le retrouvera dans la carte de ce soir. Et ça annonce du très lourd parce que les mecs sont au top niveau là. Hein, au niveau de la division cruiserweight, enfin junior heavyweight plutôt, on est vraiment à du très très haut niveau. Hein.
Ouais, et c'est ça qui montre aussi, qui permet de, je pense, de builder de la hype hein, pour le match junior qu'on verra sur la carte. Hein. Et c'est un booking assez intelligent de New Japan, alors qui est, à mon avis, très demandant au niveau des catcheurs et d'organisation d'avoir ce tournoi sur autant de temps. Mais c'est malin de mettre effectivement un tournoi centré sur les juniors qui va capitaliser de la hype, qui en plus apporte, comme tu disais, cette fraîcheur de voir des gens qui vont pas d'habitude s'affronter, d'avoir des gens qui vont, par surprise, perdre parce que c'est pas grave, c'est dans un tournoi alors que d'habitude ils sont indéboulonnables pour arriver à effectivement ce title shot à ce gros événement, ce gros pay-per-view qui est Dominion et de faire la même chose avec le G1 Climax pour Wrestle Kingdom, c'est effectivement mettre en place des tournois qui sont solides, que les gens ont envie de suivre au moins les résultats pour voir l'évolution de points jour après jour du championnat et aussi qui met de suite un coup de projecteur sur le vainqueur et le match. Qui est même plus fort en intensité que peut l'être un Royal Rumble ou un Money in the Bank dans un sens quoi. Enfin, c'est plus sportif hein, encore une fois New Japan dans son style est moins le truc chaud où on a la mallette et on cash in. Non, c'est plus du sport à la dure, donc c'est très logique, très cohérent avec ce gimmick là, mais ça marche vraiment très très bien. C'est
Alors, on
clair.
est plus dans la compétition que dans le soap opéra comme on peut avoir à la WWE. C'est ce qui fait la complémentarité des deux programmes hein, quelque part. Voilà, on a eu de très belles choses dans le Best of Super Junior. En plus des révélations de mecs qui ont un peu explosé sur la scène là, l'année dernière. Je pense à Flip Gordon par exemple là, qui a encore fait un match exceptionnel contre. Il a fait tout un tournoi exceptionnel, mais il a affronté aussi l'autre champion IWGP Junior, Will Ospreay. Ils ont fait un match magnifique. Voilà, Flip Gordon, il est en train de prendre la place tout doucement de Ricochet à la New Japan.
Ouais.
Il a le potentiel pour.
Il faut dire qu'il est bien aidé par sa collaboration depuis maintenant pas mal de temps hein, dans Being the Elite, le
C'est vrai.
show YouTube des Young Bucks, Kenny Omega, Cody, etc. Alors il y a Camille, alors on salue aussi Galuf et Terence qui sont sur le chat. Camille qui dit qu'il n'a pas compris qu'une chose, c'est qu'il a lu que suite au tournoi, Bushi allait aussi avoir un title shot, mais il ne sait pas pourquoi.
C'est vrai qu'il s'est fait pas mal défoncer pendant le tournoi Bushi, mais il a réussi à battre Will Ospreay en fait.
Ah, c'est pour
Donc,
ça.
comme il a réussi à battre Will Ospreay dans le tournoi, parce que le champion participe au tournoi, hein, comme tu l'as expliqué, ce qui fait que si par exemple le champion perd, la personne qui l'a battu, forcément, elle est légitime pour un title shot, et c'est le cas de Bushi. Alors Bushi, c'est peut-être pas le meilleur dans le ring, mais il est chaud auprès du public parce que il est hyper populaire avec son gimmick
Ah oui.
de Los Ingobernables. Donc voilà, il a ça pour lui. Voilà, je pense qu'il est au top de sa carrière, la Bushi. Hein. Je le vois mal aller plus haut que ça. C'était un peu le maillon faible du tournoi, mais bon,
Oui, il a pas
c'est
trop
du fait de sa pop.
il a pas trop le profil, hein.
C'est pas, il est, c'est pas un mauvais worker, mais comparé au reste de la division, il est un cran en dessous. Mais alors, ils ont fait un match aussi exceptionnel contre. Ah non, c'est pas lui, c'est Dragon Lee contre El Desperado, où ils se sont arrachés
Pas
les
vu
masques,
celui-là.
pardon,
Oh.
et à la fin, El Desperado devait cacher son visage avec ses cheveux pendant. Ça a bien duré encore une bonne petite dizaine de minutes,
Ouais.
le match, parce qu'il fallait pas qu'on voie son visage. Je pensais qu'ils allaient. Parce que visiblement, ils ont merdé, ils ont été un peu trop loin dans le délire de se tirer les masques. Ça a arraché carrément pour le visage ça découvrait le visage d'El Desperado. Donc je pensais qu'ils allaient arrêter le match rapidement. Et finalement, non, ils ont continué. Et il a tout fait pour pas qu'on voie son visage. Ça donnait une atmosphère au match qui était assez exceptionnelle, un peu du jamais vu. Et je suppose qu'il y aura des suites de ça. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, essayez de voir les deux dernières journées du Best of Super Junior. Alors sur le dernier jour, vous pouvez regarder juste le main event, mais par contre, ça vaut le coup de regarder la totalité de la dernière journée des deux blocs parce que c'est vraiment des matchs exceptionnels. Hein.
Alright, bien, on va commencer la carte de ce Dominion 6.9, hein, parce que c'est simplement le 9 juin. Alors, premier match annoncé sur la carte. On a un match tag team où donc on a les champions actuellement du Suzuki-gun El Desperado et Yoshinobu Kanemaru contre Roppongi Friki, hein, Sho et Yo. Alors pour planter un petit peu le décor, donc Sho et Yo ont perdu les ceintures contre effectivement El Desperado et Yoshinobu. C'était au Sho 46e anniversaire New Japan. Ils étaient aussi dans un triple frite contre Bushi et Hiromu Takahashi justement. Et puis la Sakura Genesis, Desperado et Kanemaru ont battu les deux équipes encore pour garder les ceintures. Mais durant justement le Best of the Super Junior Series, Sho et Yo, d'ailleurs, qui ont pas mal étonné hein, dans ce tournoi.
Ouais, en pas simple. Mal brillé les deux ah, ouais. aussi. Hein.
En individuel, ils ont montré qu'ils étaient vraiment des lutteurs super impressionnants, pas seulement qu'en équipe. Et les deux ont gagné dans des matchs contre justement Desperado et Kanemaru, donc les champions. Ce qui du coup les amène très logiquement à avoir une nouvelle chance de retrouver leur titre à Dominion.
Ouais. Voilà, tous ces gars-là, ils sortent du Best of Super Junior. Ils ont plus ou moins tous brillé. Alors Kanemaru, il est toujours un petit peu en réserve parce que c'est un vieux de la vieille. Mais moi, je l'aime beaucoup. Il est super précis dans le ring. Son personnage de badass vraiment heel fonctionne super bien. El Desperado, c'est quand même un très bon worker. Là, ça s'est vu dans son match contre Dragon Lee. En face, Sho et Yo, c'est deux stars en devenir, comme tu l'as dit. Ils ont été impressionnants aussi dans le tournoi du Best of the Super Junior. Je pense que Sho, il peut aller très loin. Je suis un peu perplexe, il faudrait que je regarde au niveau des tailles parce que ils annonçaient les tailles justement sur la finale du Best of Super Junior. Les mecs sont quand même ouais. super petits. Ils sont tous en dessous d'1m80 quasiment. Ouais. Donc, quand on les voit comme ça, ça choque pas. Mais peut-être si on les met en face de mecs dans la division heavyweight, ils feront peut-être un peu petits.
Face à un Okada, rapidement, ouais, voilà. tu peux devenir un minus. Mais j'arrive plus les qui est Sho, qui est Yo. Mais celui
Sho,
qui
c'est
est...
le blond.
Ouais, bah, Sho me paraît vraiment assez ouais, physiquement impressionnant.
Ouais. Donc ça, c'est des mecs, c'est clairement le futur de la New Japan. Il pourra faire un très bon heel, à mon avis, Yo, avec son espèce de style un petit peu androgyne, là, comme ça. Mais je pense qu'ils ont un avenir, ces deux-là, en solo. Peut-être plus qu'en tag team. Maintenant, je les vois bien gagner le titre quand même ce soir. Parce que ça fait un moment que les deux Zigoto, là, du Suzuki-gun, on les ceintures en main. Maintenant, j'espère qu'on va pas partir sur un match trop overbooké, un petit peu comme on dit, avec des utilisations de chaises, d'armes, parce qu'ils aiment bien faire ça, le Suzuki Gun, et c'est pas ce que fait le mieux la New Japan. Parce que ce qui est dommage à la New Japan, c'est que dès qu'ils utilisent des armes, on dirait que l'arbitre, il est ailleurs, il voit pas.
Oui.
Ça perd un peu en crédibilité les matchs. C'est un truc qu'il faut accepter quand on regarde la New Japan, c'est que les arbitres, c'est des zouaves. Alors, l'explication, c'est qu'on préfère avoir à tomber ou une soumission plutôt qu'une disqualification quand on vient voir les matchs. Mais ça peut, quand c'est la première fois que vous regardez, ça peut être déconcertant, hein. Ça peut vous sortir du match, et ça arrive souvent qu'il y a le Suzuki-gun qui est dans le coin, mais bon, ça va être l'opener du show, donc bon, faut pas s'attendre au match de la soirée, mais bon, il y a du potentiel avec Roppongi Friki. Les autres, c'est des super bons workers. Ouais. Je pense quand même qu'on aura le spectacle qu'il faut.
Ah, le spectacle sera là, c'est clair. Hein. Comme tu le dis, je pense que Sho et Yo, ça fait partie du futur de la New Japan. Ça me paraît assez évident. Par contre, niveau prono-résultat, je serais plus tenté à mettre ma piécette sur les champions actuels hein, du Suzuki-gun. Ouais. Parce que je me demande justement, avec cette espèce de résultat dans les matchs en termes de... d'engouement de la foule, de performances assez surprenantes hein, de Roppongi Friki, est-ce qu'il ne serait pas tenté à New Japan de peut-être les faire justement prendre une carrière solo et les amener plus sur la bah sur le toujours le junior, mais junior en individuel, puisque la division junior actuelle de NJAPAN, il y a des très 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 bons cruiserweight, peut-être vraiment parmi des meilleurs au monde, mais elle tourne un peu sur elle-même, j'ai
Aïe,
l'impression.
aïe. Mais c'est ça, c'est aussi un des écueils de la New Japan, c'est que le main event, c'est souvent squatté par toujours les mêmes personnes. Et là, c'est sûr que aller déboulonner Ospreay, Kushida et
Takahashi.
Takahashi, ça va être difficile, hein. Je pense qu'ils vont faire la tournante pendant un moment, ceux-là, hein, au niveau du haut de l'affiche. Il y a Skrull qui a réussi à bien s'incruster dedans. Moi, je vois déjà des mecs comme Dragon Lee derrière qui devraient quand même avoir quelques runs, je pense. Et Bushi aussi, qui est super populaire, qui devrait quand même s'incruster dans le truc. Je pense qu'il y a pas mal de monde avant qu'on puisse espérer voir Yo et Cho en solo dans la division Junior Heavyweight faire des runs vers des matchs de championnat.
Oui, pas forcément championnat direct, mais au moins déjà s'incruster, ne serait-ce qu'avec le classique. On n'est pas tant tag team, et puis à un moment donné, il y a trahison, il turn de l'un, puis une bonne rivalité avec un match, plusieurs matchs assez impressionnants pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour aboutir à des carrières solo dans la division de junior. Ça s'écrit tout seul, c'est du classique, mais vu ce qu'ils ont montré lors du tournoi récent, ça va.
Ah, c'est tentant, hein.
Ouais.
Ça donne envie,
Ça
hein,
donne envie.
de les voir un peu partir en solo. Après, les deux Suzuki-Gun sont vraiment pas très populaires.
Non.
C'est bon, on verra, mais
Ils
je
ont
vois
l'aura de
plutôt.
leur patron, quoi.
C'est ça. Suzuki-Gun, c'est
Ouais.
un peu spécial.
Ouais, c'est ça. Maintenant, on profite pour saluer qui nous ont rejoint Maxence et Yannick. Welcome.
Maxence et Yannick, salut les gars. Merci d'être venus, ça fait plaisir
Yes.
de voir du monde.
Arigato.
Gâteau, gozaimasu.
Alors, mon Akami qui nous dit que justement que le haut du poignet soit squatté par Ospreay, Hiromu, Kushida, Skrull et Bushi dans la moindre mesure, est-ce vraiment dommage vu la qualité des matchs? Je dirais qu'on peut en attendre un peu. Oui, c'est sûr que ça va, c'est pas comme s'il manquait, c'est pas comme s'il y avait un besoin, genre ok, on a personne pour faire des bons matchs de junior, il nous faut absolument du 109. C'est clair qu'on a moyen de vraiment, vraiment avoir plein de combinaisons qui marchent. Mais en voyant quelques matchs de ce tournoi, on peut se dire, tiens, ça pourrait être intéressant de voir d'autres personnes qui ne sont pas généralement dans la top card junior de NJAPAN peut-être y arriver parce que ça donne un peu d'air frais
Ouais,
devant
c'est
neuf.
ça. Un peu de
Voilà.
rafraîchissement. Mais c'est sûr qu'on a déjà une bien belle affiche en haut des podiums de la New Japan.
Exactement. On continue avec un autre tag team match. Il y a beaucoup de matchs tag team hein, à la carte de ce dominant.
Ouais.
Donc, on a d'un côté une équipe de la Taguchi Japan, c'est-à-dire Juice Robinson et David Finlay, contre ben, deux membres de Chaos, Jay White Switchblade et Yoshi Hashi. Alors, pour la petite histoire, donc c'était The New Beginning à Sapporo, il y avait Jay White qui défendait contre Kenny Omega son titre des États-Unis. Puis il y avait David Finlay qui ensuite l'a challengé à Road to Wrestling Dontaku. Et puis après le match, il y a White, après un match entre Chaos et Taguchi Japan, Jay White qui a essayé d'attaquer Juice Robinson en le tentant, le bâchant un petit peu sur ses défaites récentes contre Naito, contre Omega, contre Goto durant ces dernières années. Et du coup, suite à ça, ils ont fait ce match-là donc entre les teams de Taguchi Japan et Chaos, juste pour cette rivalité ou cette engueulade hein, finalement entre Jay White et Juice Robinson. Donc pas vraiment une grosse storyline derrière ce match. Qu'est-ce que tu en attends toi?
Ok, excuse-moi, ça a coupé. Je ne t'entendais plus. Est-ce que tu
Je t'en
m'entends?
prie. Ouais, très bien. Je me demandais
On
du coup qu'est-ce que
m'entend.
t'attendais
Parfait.
de ce match tag team, vu que là pour le coup il y a peu de storyline derrière, à part
Bah, j'espère qu'ils vont
juste.
tous aller chez le coiffeur quand même avant le show, parce que
Ouais.
c'est un des gros problèmes capillaires là, dans cette histoire. Bon, c'est clairement pas la.
C'est vrai qu'on dirait une mauvaise, un mauvais cosplay d'une couverture d'un Final Fantasy
Ouais, les quatre
jeu
ensemble,
vidéo.
c'est
Ouais.
chaud. Ouais, on va dire, c'est pas le match qu'on attend le plus. Hein. Là, on a un peu quelques stars en devenir, mais qui peinent à convaincre hein, quand même, que ce soit Jay White ou David Finlay. C'est des bons catcheurs. Alors, Finlay, son costard, son gimmick, je ne sais pas où il veut en venir. Jay White, Switchblade, ça fonctionne pas trop, il n'a pas la tête de l'emploi. Yoshihashi, bon, il est un peu. Voilà, on n'attend plus rien de Yoshihashi, honnêtement. Il y a Juice Robinson, qui est toujours populaire.
C'est plus ça,
Voilà,
ouais.
plutôt bien mener sa barque, c'est un peu lui le plus fun dans cette histoire. Voilà, celui qui joue le plus d'avenir, je vois bien s'orienter vers Tit Never assez rapidement. Ça donnera sûrement un bon match parce que c'est tous d'excellents workers. Hein. C'est voilà, des purs produits New Japan pour la plupart. Ils sont tous passés par le dojo, ils ont fait leur petite excursion. Alors on attend toujours l'excursion de Finlay, mais voilà, ça c'est des
Bah,
purs produits.
je peux dire que Finney, il est en excursion, lui, à l'aquarium d'Osaka, hein, puisque on l'avait croisé là-bas quand on était à Osaka pour un show de New Japan. Et, on était, il y a un grand, un énorme, un des plus gros quand même du Japon et d'Asie à Osaka, et on l'y a vu. Voilà. Mais à part ça,
Par ça,
il
voilà.
était pas en train de catcher qu'un requin baleine. Mais ouais,
D'accord. Il n'était pas en
c'est
train de
clair.
faire de la muscu pour prendre un peu de carrure. Non, hein,
Non.
évidemment. Il est
Eh non.
parti du poisson.
Et
Bravo.
c'est ça. Mais après, sur
Bravo.
le look, je reviens sur le look de Jay White, hein, puisque son personnage, forcément, est soi-disant une espèce de tueur psychopathe qui s'enferme dans des caves et qui déchire au couteau des photos de ses adversaires. Et c'est vrai que quand on regarde la gueule du bonhomme, on peut se dire, bon, ben, ouais, ça va, quoi, il a pas l'air de faire trop peur. Faut pas oublier que dans la culture japonaise, dans les mangas, les animés, les jeux vidéo, tout ça, peut y avoir des méchants, des bad guys un peu sadiques qui, soi-disant, en imposent un charisme, qui n'ont pas forcément un visage grosse
Ouais.
barbe, très. Très mature, mais qui peut avoir un visage un peu plus fin, un peu plus
Un peu plus
androgyne ou
poupon.
poupon. Donc, je pense que Jay White, Switchblade, depuis que japonais, je trouve qu'il marche pas trop
Ouais.
mal. Je pense que de notre point de vue d'occidentaux, c'est un peu genre,
Ouais,
bof, on a du
c'est pas faux
mal.
ce que tu dis. Et puis c'est le Gaijin quand même, hein.
C'est
Donc
ça.
ça a une signification aussi chez eux, hein. Donc ouais, moi, personnellement, il me peine à me convaincre. J'ai vu, il a fait des bons matchs. Voilà, mais j'accroche pas plus que ça. Maintenant, j'attends qu'il me fasse mentir. Hein. Je suis sûr qu'il va nous sortir un bon match d'ici pas longtemps. Je voudrais juste répondre à Maxence qui disait qu'il voulait un deuxième Flip Gordon contre Osprey. Si je dis pas de bêtises, ils sont déjà affrontés l'année dernière pour le compte de la ROH. Tu devrais aller checker ça. C'était en fin d'année, je sais plus c'était quoi le show, mais le match était déjà exceptionnel. Hein. Pour la ROH, ça devait être un War of the World ou un truc comme ça vers septembre, quelque chose comme ça. Match exceptionnel. Et pour revenir à nos moutons, qui c'est qui va gagner? Je pense que Chaos, le clan Chaos va
Ouais,
gagner.
je trouve
Hein,
c'est
c'est populaire, il faut garder la crédibilité. Voilà, bon, on s'orientera peut-être vers un Juice Robinson Switchblade à un moment donné, je pense quand même aussi.
C'est
Une
ça,
petite
enfin,
OS.
la seule storyline, elle est là-dedans. Hein, donc, ce match a lieu parce qu'il y a effectivement une engueulade, enfin, du moins, un début de rivalité entre effectivement le champion américain et Juice Robinson. Alors, deux autres matchs tag team qui suit. D'un côté, on a ben, du coup des gens de Chaos encore, hein, entre la personne de Tomohiro Ishii et Toru Yano, contre eh bien, une partie du Suzuki-gun avec bien sûr Minoru Suzuki et Zack Sabre Jr. Alors, donc, du coup, pourquoi il y a ce match? Eh bien, lors de la nuit finale du Best of the Super Junior, hein, donc il y a eu un match 3 contre 3 entre Chaos, où il y avait Tomohiro Ishii, Toru Yano et Yoshihashi, contre Suzuki-gun, Minoru Suzuki, Takahashi Iizuka et Taka Michinoku. Et c'est l'équipe Chaos qui a gagné. Mais après le match, ça continue à se bastonner entre Tomohiro Ishii et Minoru Suzuki. Du coup, on décide à Dominion de les remettre ensemble, mais cette fois-ci dans un tag team 2 contre 2. Minoru Suzuki, est-ce qu'il ne fait pas appel à son bras droit ou l'un de ses éléments les plus solides en ce moment dans son clan, à savoir le technicien ultime Zack Sabre Jr.?
Ouais, l'arme ultime du Suzuki Gun, bah c'est ça, hein, c'est l'élève tortionnaire qui est en plein apprentissage auprès de Minoru Suzuki. Ça me fait délirer, ça, l'arrivée de Zack Sabre, là, cette tablette là qui a fait taper tout le monde à la fédération. Ils l'ont vraiment bien booké pour qu'il soit crédible. Ça, c'est un produit qu'on voit pas partout. Hein. Zack Sabre Jr., ça fonctionnerait pas du tout, je pense, à la
Ah bah.
WWE. Il a eu son petit passage au Cruiserweight classique. On a bien vu que c'était un petit peu à côté. C'est spécial. Alors le match là, je ne sais pas si ça va être le stinker de la soirée parce qu'il y a Yano dans l'histoire,
Oui.
Suzuki quand il n'est pas en solo, c'est toujours un petit peu difficile. Ça va être aussi de l'utilisation de ses chaises et de trucs comme ça. Il va aller taper les Young Lions autour. Pauvre Tomohiro Ishii qui est coincé dans ces histoires-là, lui mériterait un championnat quel qu'il soit.
Ouais, je sais que tu aimes beaucoup Tomohiro Ishii.
Ouais. Ah bah, Tomohiro Ishii, il a fait des grands, grands matchs. Il ne fait jamais de mauvais matchs, lui, quand il est en solo. C'est quelque chose d'incroyable. Mais bon, pour l'instant, il est toujours coincé avec Toru Yano.
D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, à l'écran, vous avez les quatre compétiteurs hein, qui s'affichent. Et Yano qui fait vraiment tâche. Au milieu des trois autres, ils ont tous des gueules de tueurs, yakuza, je ne sais pas quoi. Et au milieu, tu as l'autre qui rigole comme un débile.
Ouais. Non, j'aime beaucoup Toru Yano, mais c'est voilà, c'est un petit peu dommage de pas avoir fait. Bon, on a déjà eu pas mal de Ishii contre Saber Junior, mais Ishii Suzuki, ce serait pas mal. Pour le reste, qui c'est qui va gagner? Voilà, je pense que le Suzuki Go ne peut pas perdre. Hein. Avec Saber Junior, il perd pas beaucoup, hein, le New Japan. Hein.
Non, puis en plus, il y a les deux là, c'est Minoru Suzuki
par contre,
et
Saber. Ouais. Pour la petite histoire, Yano, à chaque fois, il bat Suzuki. Hein. C'est ce que nous dit Kamibour. Effectivement, il y a une bisbille entre Yano et Suzuki parce que Yano gagne toujours contre Suzuki, toujours en trichant ou par une esbrouffe ou n'importe quoi. Mais pour l'instant, c'est toujours Yano qui gagne quand ils s'affrontent. C'est assez rigolo. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Suzuki, c'est une des grandes légendes de la New Japan hein, qui a aussi un passé de fighter mixed martial art, hein, les Geet. Qui est un peu le torsionnaire de la New Japan hein, qui martyrise les Young Lions à longueur de temps. Mais voilà, c'est sa némésis, c'est Toru Yano, allez savoir. Donc voilà, on verra ce que ça donne.
On verra bien, mais pareil, je vois bien Suzuki-gun l'emporter.
Ouais, surtout parce que je vois pas Zack Sabre perdre, il perd jamais Zack Sabre chez eux. Ils l'ont vraiment pooké très très fort.
On verra bien. Ensuite, c'est un match triple frite pour exactement pour le titre donc Never Openweight Championship. Hein, donc on a le champion Hiroki Goto contre Michael Elgin et Taichi du Suzuki Gun hein, justement. Donc du coup là, ce qui s'est passé, c'est que Road to Wrestling Dontaku Goto donc a réussi à garder son titre face à justement Juice Robinson hein, comme on disait. Et puis quand le match s'est arrêté, il y a Michael Elgin qui est venu pour le challenger. Mais il a été interrompu par Taichi, qui voulait aussi le challenger. Et du coup, tout simplement, tag team playa Fatal Frit, enfin triple frit pour tout le monde, et bien on va vous faire combattre tous les trois pour la ceinture à Dominion. Alors, du coup, il y a Camille là, qui est assez emballé par ce match, hein, qui dit « Oh punaise, ce match pourrait être super vu le niveau des trois ». Est-ce que tu partages l'engouement de Camille?
Je partage complètement son engouement. Bien, salut Guillaume. C'est une affiche originale, rafraîchissante. Voir Goto, le champion, affronter Michael Elgin et Taichi qui s'incruste, hein, Taichi du Suzuki-gun aussi. C'est rare aussi, effectivement, comme Sonic Yannick, un triple threat à la New Japan. Hein, c'est plutôt des spécialistes du 1 contre 1 à la New Japan. Mais là, c'est l'occasion parce qu'on sait que Taichi. Un petit peu limité dans le ring, c'est un peu quelque chose comme le Miz à la New Japan, quoi. Hein. Mais c'est un mec qui sait jouer avec la foule, qui maîtrise l'anti-catch comme personne, et qui, voilà, qu'on adore détester, Taichi. Goto, c'est un mec solide, qui est un petit peu inégal, mais il est toujours au rendez-vous quand il faut faire des gros matchs. C'est sûr que lui, il avait un potentiel pour être un main eventer du type Okada, Tanahashi. Ça a jamais fonctionné comme il l'aurait souhaité. Mais il est toujours là, il fait toujours le taf. C'est un bon face. Est-ce qu'il y aura la lapine? J'espère. Hein. C'est toujours un peu triste quand Taichi vient sans sa petite lapine. Enfin, c'est pas lui qui a la lapine. Lui, il a une fille un petit peu.
Théâtre gothique, parce que c'est un peu son gimmick à Taichi, hein. C'est une espèce de fantôme de l'opéra, fantôme du ring presque.
La lapine, c'est à Takahashi.
C'est ça.
Enfin, Takahashi, le pimp, le Tokyo pimp. Et puis on a Michael Elgin dans le tournoi, voilà, Yujiro Takahashi. Michael Elgin, donc le troisième homme, qui est un des meilleurs catcheurs au monde, hein, quand même, techniquement, une force de la nature. C'est, moi, il me fait souvent penser à Cesaro dans sa manière de catcher. J'ai rarement vu des mauvais matchs aussi avec Michael Elgin. Hormis une fois, il s'était affronté avec Suzuki, je crois que ça n'avait pas marché du tout. Mais là, face à, avec Goto dans l'histoire, ça peut que donner du très bon spectacle. Un peu en rédemption à Michael Elgin, il a eu plein de soucis là, aux États-Unis avec l'histoire de problèmes de harcèlement dans son école de catch là. C'était pas vraiment lui le fautif dans l'histoire, mais bon, comme ça,
ça reste pas figurieux.
Il s'est laissé aller, voilà, hein, s'est laissé aller à des tweets de merde complètement dégueulasses, donc c'est sûrement un gros connard dans la vie, mais c'est, ça reste un catcheur exceptionnel. Voilà, donc un peu en pénitence, en rédemption. Je pense que Taichi va voler la ceinture, hein. Il a le vent en poupe.
Ah oui, tu vois Taichi.
Il est bien populaire. Ouais, je pense que ça va se passer comme ça, c'est une bonne occasion. Hein. Une belle configuration pour aller chipper la ceinture.
C'est vrai que voilà, effectivement, comme tu disais, avec son style heel filou, qui joue avec les règles et tout ce qui se passe dans le ring, une triple frite, c'est généralement la bonne configuration pour arriver à tirer son épingle du jeu. Et malgré que tu sois un peu moins fort dans la power ranking que tes adversaires, tu peux, à la star d'un mise, hein, comme tu le disais si bien, pouvoir arriver et prendre la ceinture. Ça me plairait bien de voir Taichi avec la ceinture. Hein. D'ailleurs, ça me fait rigoler Maxence qui rebondit sur cette espèce de gimmick, comme je disais, fantôme du ring. Il dit, c'est pas la gimmick de Lesnar, ça.
Maîtrise mieux ça, Lesnar, le fantôme du ring, effectivement.
Ouais, sympa, quoi. Donc, il y a Camille qui me dit qu'il ne sait pas pour la victoire. Par contre, petit plus pour Goto, qui reste un des favoris de la foule, effectivement. On est bien d'accord.
C'est sûr, mais il a eu des grosses défenses de titre déjà gagnées, Goto. Donc je pense qu'il a peut-être fait son temps sur ce règne-là, mais on ne sait jamais.
On ne sait jamais, tout à fait. Next match, c'est pour le match AWGP Tag Team, hein, donc Heavyweight, hein, donc les champions actuels de Los Ingobernables de Rapón, Sanada et Evil, contre bien les Young Bucks, hein, puisque à Honor Rising, les Young Bucks ont annoncé qu'ils quittaient la division junior pour la division Heavyweight. Et du coup, à Washington Taku, suite à un match entre LIJ et Suzuki-Gun, ils sont venus pour challenger justement Sanada et Evil, qui ont accepté. Sachant qu'avant ça, les Young Bucks avaient eu une première rivalité dans la division Heavyweight contre tout simplement les Golden Lovers, hein, donc Omega
Ibushi.
Ibushi, Kota Ibushi, exactement. Donc, comme dit Terence, parlons vrai, Sanada.
Sanada, oui. Et oui, c'est lui l'avenir de la New Japan, je pense. Là, il mange un petit peu son pain noir, hein, parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est bouché au niveau du main event. Okada, il ne va pas partir tout de suite. Il y a Omega qui est là. Il y a Naito qui est arrivé enfin au sommet, qui n'est pas prêt de partir, à mon avis. Tanahashi qui ne veut pas lâcher le morceau, je pense. Donc, ça reste encore un peu bouché. Donc là, il va y travailler en équipe. Sanada qui a clairement tout pour être le champion AWGP. Je ne sais pas s'il aura l'occasion de briller dans ce match de manière à ce que ce soit flagrant, mais voilà, il y a beaucoup d'espoir sur Sanada.
Ouais, même si moi j'attends pas mal de ce match, de voir autre chose, hein, de la part de Evil et Sanada, puisque j'avais été pas très emballé par leur match quand ils ont gagné la ceinture, hein, Wrestling Kingdom contre Killer Elite Squad.
Ouais, il s'était fait défoncer tout le match. Hein.
Ouais, le match
il s'était fait défoncer tout le match. C'était pour mettre en valeur le côté immense des deux Killer Elite Squad qui font une tête de plus que Sanada et Evil. Après, je suis pas non plus convaincu à 100% par cette tag team là entre Sanada et Evil. Mais maintenant, voilà, ils sont populaires. C'est un peu le moment de voir un peu ce que ça donne avec des ceintures.
Ouais.
Il a été blessé aussi Evil, hein, je crois, pendant un certain temps. Ouais, et en face, c'est Young Bucks.
Les Young Bucks, hein, donc du coup, est-ce que ça va être le moment pour décrocher une des rares ceintures tag team qu'ils ont pas encore à leur palmarès? Dans les fédés dans lesquels ils traînent, sais pas.
Ouais,
Est-ce que tu les
peut-être
vois
l'heure
gagner
pour
là?
eux. Ah, je suis perplexe. Ils sont pas faciles à comment dire, à déterminer les victoires là-dessus.
Pas évident.
Ça fait un moment qu'ils ont la ceinture quand même, les deux, Los Ingobernables.
Quasiment
Et
6 mois là.
puis, ouais, et puis les Young Bucks, ils sont en pleine bourre.
Ils ont perdu donc effectivement leur rivalité contre les Golden Lovers. Donc pour l'instant leur incursion dans la Heavyweight Tag Team Division se solde par des échecs. Donc
Ouais, non, bah je pense que les Young Bucks ont gagné pour avoir les ceintures à All-In,
et oui, il y a
histoire
ça.
de se pavaner un petit peu avec les ceintures, hein.
Bon,
On rappelle
après,
que
entre juin et septembre, hein, puisque All-In, le show monté par Young Bucks et Cody Rhodes, c'est en septembre, bon, il y aura d'autres moments forts et d'autres rendez-vous, d'autres opportunités pour les Young Bucks de gagner des ceintures, mais...
Effectivement, Terence, on pronostique la même chose au même moment. C'est chaud, mais bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va avoir un match exceptionnel. N'oublions pas que les Young Bucks, c'est quand même la meilleure équipe du monde. Quand ils sont au Japon, c'est là qu'ils sortent le meilleur catch. Voilà, Sanada et Evil, c'est pas des peintres. Hein. Bon, comme j'ai dit, hein, Sanada, c'est l'avenir. Il a tout ce qu'il faut. Evil, c'est sûr qu'il a, il a un catch un peu moins extraordinaire que ce qu'on peut voir, mais c'est quand même un catcheur solide. Moi, j'ai vu faire des très très bons matchs dans les G1 Climax. Il a un personnage qui fonctionne bien, qui est populaire. C'est un peu bizarre quand il arrive sur le ring avec sa longue faux là, en plastique, qui est un peu ridicule, mais bon,
Oui,
apparemment, c'est son truc.
c'est vrai qu'il dénote un petit peu quand on voit les Los Ingobernables et Serapone débarquer. Il veut lui faire un peu tâche. Mais justement, c'est ça leur concept, hein, leur gimmick de clan, c'est vraiment les outcasts, ceux qui sont en dehors de la société. Donc, ok, lui, c'est un peu l'émo dans sa chambre, qui est allé au magasin de déguisement du coin, d'acheter sa capuche,
J'aime
sa
la
toge
mort.
et sa faux. J'aime la
Non,
mort,
j'aime
maman,
la
je ne rangerai
mort.
pas ma chambre. Donc, c'est un peu
Mais
ça.
c'est ça, hein, Los
Ouais.
Ingobernables, c'est les sales gosses, dépressifs, geeks, émo, tout ce qu'on veut. Hein, c'est. Mais ouais, non, on va. Allez, moi je vais parier sur les Young Bucks. Et puis on aura une belle revanche pour récupérer les ceintures de l'autre côté.
C'est ça.
Je parie surtout sur un bon match, avec du spectacle
Ouais.
et sûrement des Young Bucks incroyables parce qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment fantastiques en ce moment, hein, les Young Bucks. On oublie de le souligner, mais c'est vraiment une équipe extraordinaire. Et tout ce qu'ils font, allez suivre Being the Elite dès que vous pouvez. Ils sont en train de créer quelque chose là de leur côté. Enfin, ça y est, c'est créé maintenant. Hein, ils viennent de boucler le plus gros show indépendant de l'histoire des États-Unis quasiment. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe dans le monde du catch, c'est du côté des Young Bucks. Hein, cherchez pas.
Exactement. Alors tiens, bonne question de Guillaume. C'est lequel le plus émo, Evil ou Switchblade? Moi je
Ouais,
dirais
je dirais.
Switchblade.
Toi, t'es sur
Eh
Switchblade,
ouais.
j'aurais dit. Oh.
Evil, il est plus, je sais pas, il est plus Metal God, quoi. Genre vraiment, j'aime la mort.
Ouais.
Switchblade, il est là avec ses beaux manteaux en cuir. C'est un peu une espèce de emo hipster Switchblade, en fait, c'est ça. Evil, c'est
C'est
plus le
ça.
côté traditionnel, hardcore, vraiment, comme dit Terence, sponsorisé par la foire fouille.
C'est
Il est
ça.
allé faire son costume, c'est pas papa et maman qui lui ont offert pour Noël comme Switchblade. Oh, super, j'ai mon nouveau couteau de tueur et ma gabardine en cuir.
Ouais, il fait
Ouais.
un peu gosse de riche, effectivement,
Eh
Switchblade, comme
ouais.
ça.
Ouais,
C'est
carrément.
un truc.
Exactement.
Ah.
Alors, prochain match, joyeux bordel, hein, un 3 contre 3. Puisqu'on a du lourd sur le ring, on a
Oh.
Hiroshi Tanahashi, Jushin Thunder Liger et Rey Mysterio contre eh bien, une partie du Bullet Club, Cody, Hangman Page et Marty Scurll. Alors là, du coup, pourquoi il y a ce match? Au début, au nouveau début, hein, à Osaka, The New Beginning, il y a Rey Mysterio qui a fait son début avec son arrivée avec un message vidéo en lançant un challenge justement à Jushin Thunder Liger pour un match qui devait se passer normalement à Strong Style Evolved. Donc les deux, c'est une affiche que beaucoup de fans à travers le monde attendent de voir ces deux-là s'affronter. Sauf que du coup, ben, Rey Mysterio, il a eu une blessure et qui fait qu'il n'a pas pu participer au match. Il a été remplacé par Will Ospreay pour la petite histoire. Donc Mysterio, il est venu quand même au show, disant qu'il affronterait Liger plus tard. Mais le 8 mai, il a été annoncé que Mysterio allait donc combattre à Dominion. Et après un match durant le tournoi Best of the Super Junior, il y a Marty Scurll qui a attaqué Hiroshi Tanahashi, avec, qui était avec Liger, qui arrive hein, Liger pour sauver Tanahashi. Mais du coup, ça fait un gros boxon avec les pods de Marty Scurll du Bullet Club. Et tout ceci aboutit à ce six-man tag team match. Donc d'un côté, on a la face du nouveau Bullet Club, hein, Cody Rhodes et ses deux lieutenants, Scurll et Hangman Page. Et donc du coup, du très très lourd, des légendes du catch, que ce soit Daniel Japan, Tanahashi, Liger et Rey Mysterio. Donc est-ce qu'on peut voir Rey Mysterio perdre son premier match à New Japan comme ça? Ça paraît peu crédible, non?
Ouais, c'est vrai que c'est peu crédible, maintenant que tu le dis. Ouais, parce qu'au final, c'est son premier match à Rey Mysterio, et effectivement. Ouais. Alors moi, j'ai vraiment cru qu'il allait leur mettre une carotte à la New Japan après sa blessure, et qu'en fait, il avait signé en douce avec la WWE, et que du coup, il a dit « Ah, je suis blessé, en fait, je peux pas venir ». Mais non, il est là, il assure, il assume. Alors, du coup, on a vraiment là les légendes.
Sans Kukai, comme dit Terence sur le chat. Hein. Sans Kukai contre The Elite, hein, c'est un peu ça.
C'est ça, The Elite qui sont les légendes du futur, quoi, hein, quelque part.
Oh, qui sont déjà là.
Hein. Ouais, c'est ça. Hein.
Peut-être pas Hangman Page et Marty Scurll autant qu'ils ne pourraient, mais.
Ouais, alors Scurll il est haut. Hangman Page c'est vraiment celui qui a un cran en dessous. Mm-hmm. Scurll il a vraiment explosé sur ces dernières années, et Cody c'est incroyable aussi ce qu'il a réussi à faire.
Cody Rhodes maintenant c'est un personnage, c'est un vilain de comics quoi. C'est le Lex Luthor du catch quoi, j'ai envie de dire.
C'est vrai.
Comme ça que je le vois quoi. C'est incroyable.
Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut faire de l'ombre à la WWE, je crois que ça va être lui. Hein.
All-in, ça reste à une échelle mineure, mais c'est une petite ombre sur un petit coin. J'avais lu dans une interview de Cody Rhodes il n'y a pas si longtemps que ça, quelques semaines, qu'il me semble que son premier match à WrestleMania, c'était contre Rey Mysterio, justement.
Ouais.
Donc là, le fait de les revoir face à face, bien sûr, avec des équipiers du soir, mais à New Japan, c'est assez rigolo.
C'est ça, ouais. En plus, il y a de l'histoire derrière tout ça. C'est assez incroyable. Moi, j'adore Jushin Thunder Liger, qui, malgré, je sais pas quel âge il a maintenant, mais il vit dans le dojo de la New Japan. C'est vraiment, il symbolise le catch japonais. Il fait toujours des matchs qui sont super cool. Il va sûrement être super cool dans ce match. Il va sûrement être à deux doigts de se tuer, je le vois bien tomber sur la tête encore sur un spot, comme il fait d'habitude. 53 ans, voilà. J'ai toujours cru qu'il portait une gaine un peu sous son costume, mais non, il est carré comme il est carré malgré son âge. Tanahashi bah, est toujours là. Je pense que ça va jouer pas mal avec le public, il va y avoir pas mal d'anti-catch, mais je pense que quand ça va interagir entre Scurll et Mysterio, ça risque d'être assez incroyable. Ça nous annonce un super match. Et maintenant que tu m'as parlé de cette histoire de premier match de Rey Mysterio, je pense que les gentils vont gagner quand même. De toute façon, ça leur fera pas de mal au Bullet Club de perdre un peu.
Ouais, et puis il y a Tanahashi aussi. Enfin,
c'est à moins qu'ils aient prévu.
Intervention extérieure. Or, si Bullet Club gagne, c'est vraiment de manière très, très contestable. Peut-être intervention de Brandy, à savoir.
J'espère qu'elle sera là quand même. Sinon, ce serait une soirée un peu triste s'il n'y a pas Brandy Rhodes. Il aime bien tricher aussi, ce bon vieux Marty Scurll là, avec sa poudre blanche et tout ça.
Le vilain pour rien.
Ouais. Après, c'est peut-être Jushin Thunder Liger qui se prend Alpine aussi.
Oui.
Lui, c'est pas grave si c'est lui qui prend le tombé. Ouais. Mais allez, soyons. Soyons optimistes, voyons une victoire des gentils de ces trois légendes du catch là. C'est quand même une putain d'affiche de les voir ensemble. C'est marrant de voir Rey Mysterio comme ça avec Tanahashi. Voilà, ça, c'est toute l'histoire du catch là, résumée en un match.
Waouh, c'est beau ce que
c'est. C'est quand même plutôt cool. Ouais, ça devient un peu. J'adore la gueule de Cody Rhodes quoi, sur ces affiches. C'est quand même.
Ah bah oui.
C'est quand même quelque chose.
Une présence. Rien à voir avec ce qu'il faisait là-bas à Stanford.
Ouais, mon dieu. C'est quoi Stardust? Non mais n'importe quoi.
Je pense que Cody doit regarder toutes les semaines une demi-heure comme ça au pif d'euro, juste pour
se
mettre de
rassurer.
sourire.
J'ai évité une bataille de bouffe.
Ah, c'est clair, c'est pas New Japan qui vont s'envoyer tacos, hein, ça c'est clair.
Non, ah non, non.
Non, ça serait des sushis à la rigueur, mais même
ouais.
ça ils le font pas.
Non.
On avance, match pour le titre junior, on en parlait en intro, hein, un peu en débrief de ce tournoi Best of Super Junior, hein, puisqu'on a le champion Will Ospreay qui maintenant affronte eh bien, le gagnant de cette année, Hiromu Takahashi, la bombe à retardement de Los Ingobernables et Rapon.
Donc, le chéri de ces dames.
Exactement, hein, très populaire la gentilline, ça c'est clair. Donc les deux, hein, ils se connaissent bien, puisqu'à Wrestle Kingdom, ils étaient dans le Fatal 4-Way avec Skrull et Kushida, match pendant lequel... Mm. Eh bien, Ospreay devenu champion. À New Beginning, Ospreay a déjà affronté Takahashi en simple et Ospreay a gagné. Mais là, forcément, Takahashi ayant remporté le tournoi, il a droit très légitimement à une revanche. Est-ce que ça y est, c'est pas le temps, le moment venu pour ce bon Takahashi de tâter la ceinture junior? Moi, je pense bien que oui, même si Ospreay est impeccable et royal depuis qu'il a gagné le titre à Wrestle Kingdom, tout ce que j'ai vu de lui, c'est juste nickel.
Ouais.
Mais quand même, en termes d'histoire.
Ouais. Il est en pleine bourre, j'ai envie de dire, Takashi. Enfin, il est immensément populaire. Ils ont tellement bien réussi son introduction dans le roster. Il est arrivé comme une star. Il a tout de suite frappé très fort. Il a atomisé Kushida. Là, il était un peu en retrait parce qu'il l'avait placé dans la division tag team un petit peu avec. Il était en équipe avec Bushi. Et là, il revient en force. Hein, il gagne le Best of the Super Junior avec des matchs qui vont rester dans l'histoire. Hein. Ça, c'est le match qu'il a sorti contre Ishimori. Ça va peut-être être le match de l'année. Will Ospreay, aucune fausse note depuis qu'il est arrivé à la New Japan. Je cherche toujours un mauvais match avec Will Ospreay. Il a encore enchaîné des grosses grosses performances contre Marty Scurll, c'était exceptionnel son match. Là encore, pendant le Best of Super Junior, il jouait vraiment le champion en plus. Hein. Il incarne le champion plus que jamais, vraiment une version Junior Heavyweight d'Okada. S'il y a un mec qui peut le faire tomber, c'est bien Takahashi. Maintenant, Takahashi vient de gagner le Best of Super Junior, donc c'est déjà une grosse grosse victoire, déjà un gros fait d'armes. Je me demande si c'est pas quand même Ospreay qui va gagner pour après se faire battre par Taiji Ishimori, et étant donné que le Ticking Time Bomb a battu Ishimori, il pourra tout de suite revendiquer un spot pour la ceinture, un title shot, et là prendre le titre, et pourquoi pas ça peut attendre le Wrestle Kingdom. Bon, il y a aussi il y a la New Japan Cup, enfin la Super J Cup encore. Hein, il y a un gros tournoi.
Il y a beaucoup de choses. Ouais, maintenant moi je vois bien la victoire hein, pour Takahashi. Hein. Je pense que c'est
ouais,
le moment.
Tu la donnes à Takahashi.
Il est mûr. Ouais. Même si encore une fois Ospreay n'est pas déméritant loin de là, mais bon, il a quand même encaissé quelques blessures qu'on souhaite traiter, mais peut-être qu'il faut lever le pied à un moment donné. Et puis voilà.
Il laisse pas reposer les gens hein, au Japon.
Non, non, ça c'est clair.
Ça vous prendrait à Tanahashi là qui continue à catcher alors qu'il est pété de partout. Pensons à Shibata, paix à son âme. Ils vont faire catcher. Il y a Onma qui revient à la fin du mois. Onma qui s'est blessé dans un match. Il était quasiment paraplégique hein, suite à un mauvais DDT. Là, il est revenu, mais il tient tout juste debout et il nous annonce qu'il va catcher. Qu'il est de retour à la fin du mois, je suis curieux de voir ça. Mais
ces gens s'en foutent.
C'est quand même assez inquiétant leur manière d'être un peu trop jusqu'au boutiste quand les matchs de Takahashi sont assez incroyables. Il est en train de détruire son corps, tout comme Ospreay l'a déjà fait visiblement.
Ouais, et puis surtout, enfin, il est aussi très très hardcore à ses adversaires, hein, parce que ça powerbombe à l'extérieur.
C'est ça, mais il paye aussi de sa personne, hein. Il fait des descentes sur le coccyx là, à chaque match, 3-4 fois par match. Là, à la finale du Best of Super Junior, il a quand même fait dévaler les escaliers des gradins suite à un Hurricane Rana de la Mitaichi Shimori, c'était quand même un truc assez incroyable. Je sais pas comment il a fait pour pas se blesser.
Dans tous
il
les
est
cas,
un peu cascadeur.
On a une forte probabilité de voir la nuque de Will Ospreay tordue à 70 degrés suite à un succès de flip powerbomb de Takahashi à l'extérieur. Hein. Ça, c'est ça.
Mais ça fait partie du charme de ces affrontements. Hein.
C'est ça. Et d'ailleurs, il y a Camille qui nous rappelle que Takahashi a fait ses débuts à Dominion il y a 2 ans. Seulement 2 ans et déjà un personnage aussi bien installé et aussi populaire et efficace. Alors bien sûr, il a commencé bien avant 2 ans, mais...
Il est revenu il y a 2 ans de son excursion.
Ouais, c'est ça. Et donc l'année dernière, c'était Switchblade qui revenait de son excursion. Mm. Et là, Camille nous demande, qui voyez-vous faire ses débuts cette année à Dominion, si jamais on estime qu'après Takahashi, après Switchblade, c'est...
Ouais.
Est-ce que t'as un nom comme ça en tête de personnes qui seraient parties et... Parce que bon, on a le début de Rey Mysterio. Techniquement, ce Dominion, c'est le premier match de Rey Mysterio à New Japan. Donc,
ouais, je sais qu'il y en a 2-3 qui sont partis, mais alors.
Pas fini.
Savoir qui pourrait débuter. Non. Ouais, je sais pas. Non, là, comme ça, j'ai rien qui me va. Je pense, ils vont bien faire revenir des gens du Mexique, hein, mais je connais pas assez le Flip Gordon. Ouais, Flip Gordon, ce serait un bel apport à la New Japan. Il a bien fonctionné pendant le Best of Super Junior et CH aussi. Oui. Et je sais pas si au niveau de leur contrat, ils peuvent se permettre. Flip Gordon, je pense, parce qu'il est à la Ring of Honor, donc il y a le partenariat.
Aussi,
et CH, tu as trouvé?
Ouais, le nouveau membre du Bullet Club for Life qui arrive. C'est quelqu'un qu'on connaît mais qu'on n'a jamais vu à New Japan. Un Gaijin, un British, un roi, un king.
Naval. Ah,
ça serait bon ça.
Seulement, ça ce serait bon. Ouais,
dis-moi que tu popperais pas comme un dingue si jamais Neville arrive, par exemple pour faire le pour sauver Cody Rhodes et les autres du Bullet Club contre Mysterio, Liger, Tanahashi.
Ouais. Mais alors,
roi Neville qui débarque, Ring of Saturn sur Rey Mysterio, boum, allez, on n'en parle plus.
Mais dans un monde parfait, c'est ça. Hein.
Et oui.
Mais le problème c'est qu'il est pas, il est dans les limbes, Neville quoi. Il est piégé à la WWE. Ils veulent pas le laisser partir.
J'ai lu une news aujourd'hui vu qu'il y a, ça bouge un petit peu du côté UK, la WWE, vu qu'ils ont nommé un GM, tout ça. A priori, ça remettrait sur les discussions des shows réguliers de l'écurie anglaise WWE et donc du coup Neville serait a priori dans le mix. Dans le deal.
D'accord.
Voilà, mais bon, ça reste que des rumeurs.
Ça peut être une porte de sortie parce que, oui, effectivement, comme le mentionne Terence, ils ont gelé son contrat. Donc, généralement, quand on gèle un contrat, c'est lié à un arrêt maladie, un truc comme ça. Donc, il doit être en dépression et c'est quand même lui qui a refusé de faire des matchs. Hein, et ça, normalement, tu te fais virer. Mais bon, visiblement, ils n'ont pas envie de le virer. Je pense qu'il s'est couvert. Il doit être en dépression, hein, je pense, un truc comme ça. Et donc, va falloir qu'il le fasse revenir. Et à partir de là, ça redéclenchera son contrat, qui finira bien par arriver à un terme. Et là, il pourra s'échapper, ne pas renouveler. Mais il va falloir qu'effectivement, il trouve les clauses qui l'intéressent. Quoi.
Exact. Donc, on verra. On verra bien si quelqu'un fait son début à ce Dominion. Premier main event entre guillemets, hein. On connaît les doubles main event à New Japan, hein. On a déjà parlé pour Wrestle Kingdom, et bien du coup c'est un peu les mêmes, mais on les change finalement, hein. C'est les 4 mêmes gars qui sont dans les derniers matchs, mais on intervertit, puisque le premier des deux sera pour le titre intercontinental, détenu par le leader de Los Ingobernables, Blaise de Rapon, Naito, l'impérial Naito, contre, bien sûr, l'alpha, Chris Jericho, Y2J.
Fuckface.
Parce que du coup, New Year Dash, hein, donc au show juste après Wrestle Kingdom en 2018, Chris Jericho a attaqué Tetsuya Naito, mais... Du coup, il est parti. Entre-temps, il a fait les 25 ans de Raw. Il a participé au Rumble. même eu des rumeurs sur net comme quoi, bah, du coup, il y avait ça qui était dans les cartons, dans les idées, mais finalement, ça s'est pas fait, c'est comme ça. Bref, Chris Jericho avait bien worké encore tout son petit monde, puisque à Wrestling Inokuni, Naito a battu Minoru Suzuki pour gagner justement le championnat intercontinental. Et puis après, à Dontaku, Jericho a fait son retour avec, dans le public avec un masque de Bushi, hein, comme il avait fait il y a longtemps. À la WWE, il a attaqué Naito et de fait, il a été annoncé suite à différentes guerres par vidéo et tweets interposés que à 2 millions, Naito défendrait son championnat intercontinental contre Y2J qui lui brigue peut-être son 10e titre intercontinental, premier à New Japan évidemment. Donc, du coup, pareil, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match en termes de style? Parce qu'on a eu un match Jericho Omega qui était très, entre guillemets, un peu hardcore, hein, selon les standards du Japan. Là, on est sur un match moins avec une stipulation plus classique, hein, mais Naito, Jericho.
Ouais, ça va être enfin le match de wrestling de Chris Jericho à la New Japan. Est-ce qu'il n'est pas trop vieux? Moi, j'ai bon espoir dans Chris Jericho. Je m'inquiète pas trop. C'était assez exceptionnel leur rivalité, les interventions de Chris Jericho, les passages à tabac dans les vestiaires, Chris Jericho qui insulte tout le monde, les caméramans, ils passent vraiment pour un gros psychopathe.
Ah oui, il est
Il se
très
lâche, hein,
badass hardcore, hein.
il se lâche là, tout ce qu'il peut pas dire à la
C'est
WWE comme
ça.
insanité, il le sort.
Ah oui, j'ai
Il y a
été
du
PG pendant
sang.
10 ans, pas de problème, hein.
Ouais. Alors, c'est tout le talent de Chris Jericho, voilà, qui mélangeait avec ce que propose la New Japan. Il a tout de suite bien incorporé les codes. Il est exceptionnel. Il est détestable. Il s'attaque au mec le plus populaire. Et ça va forcément. Je pense qu'on va avoir un très bon match. Hein. Parce qu'ils sont suffisamment intelligents l'un l'autre pour monter un match qui sera suffisamment spectaculaire. Ils savent, ils connaissent la place où ils ont. Les shows de la New Japan, c'est quand même booké intelligemment pour que ça aille crescendo. Plus tu vas haut, plus tu montes dans la carte, plus les matchs vont être exceptionnels. Il y a pas ce show stealer qu'on peut avoir à la WWE. C'est souvent le main event qui va être le meilleur match de la soirée. Donc là, ça sera peut-être pas le meilleur match de la soirée, mais ça va être celui qui sera juste en dessous. Et Chris Jericho a tellement d'expérience dans le business. Naito, il a déjà tout compris. Il a des capacités qui sont assez exceptionnelles dans le ring. Donc j'ai vraiment pas trop d'inquiétude sur la qualité du match et je pense que ça va être très très fun et je pense que Chris Jericho il va bien nous faire marrer. Hein. Tout
Ouais.
comme Naito qui est aussi très drôle dans le ring hein, quand il.
Oui, tout à fait. Même si là, je vois, j'entrevois le fait que Naito sera un peu moins tranquilo et sur la déconnade, puisque je vois bien vraiment les bookers hein, Gedo jouer la carte de ce personnage de Chris Jericho et New Japan, très 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 heel, très très méchant, pour vraiment essayer de valoriser au maximum le côté ultra face populaire de Naito. Et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Hein. Si Naito gagne, ce que je pense être le cas. Ça serait une vraie victoire de Big Babyface, quoi. Ça serait assez énorme. Hein. Il y a tout...
Je vois la victoire de Naito
Il y a
aussi.
tout pour ça. Hein. Jericho est un véritable connard depuis qu'il a mis le pied à New Japan. C'est un gaijin qui a bossé en plus très longtemps pour notre promotion. Il est arrogant, pas possible. Il parle qu'en anglais. Naito est le face le plus over de la promotion. Là, ça s'écrit tout seul, quoi. C'est vraiment c'est une victoire, je pense, être un vrai feel-good moment, une vraie victoire positive pour Naito.
Ça va être un gros exploit voilà, à mettre à son actif. En plus, Jericho est à la New Japan, comme ils ont des gabarits plus petits et qu'il est plutôt massif, il fait vraiment ours mal léché. Il est un peu plus impressionnant que. Il a ce truc en plus qu'il peut pas avoir la WWE, c'est-à-dire que physiquement il est un peu plus menaçant. Mais il est contre l'ultimate babyface actuel de la New Japan. Voilà, c'est le classique gentil contre méchant finalement, et ça va sûrement fonctionner du feu de Dieu. Hein.
Ça va être un très très bon match. Je pense pas mal sur la psychologie et en rapport avec le public. Je pense vraiment là, à mon avis, ça va être la folie à Osaka pour ce match. Et ce sera aussi la folie pour le dernier match de la soirée, hein, le main event of the evening, le champion divin, le dieu du catch
dieu
moderne,
du catch.
Kazuchika Okada contre Kenny Omega. Donc point de stipulation sans aucune limite de temps, hein, puisque à New Japan, les matchs ont généralement une limite de temps, une demi-heure, une heure. Là, aucune limite de temps, et c'est un 2 out of 3 falls. Donc pareil, pour retracer un petit peu l'histoire juste phénoménale entre les deux, on remonte jusqu'en 2016, en août 2016, le 14 exactement, quand Kenny Omega bat Hirooki Goto pour gagner le G1 Climax, donc lui permettant d'avoir un match pour le IWGP Heavyweight Championship à Wrestle Kingdom 11. À ce moment-là, ben, du coup, à Wrestle Kingdom 11, Okada bat Omega pour garder son titre, hein, qui était le premier match plus de 5 étoiles dans le système Melzer, un match qui a fait couler énormément d'encre, qui d'ailleurs a attiré énormément de regards aussi sur la New Japan, sur le produit actuel de New Japan, hein, dont moi par ailleurs. Suivant ça, Wrestling Dontaku, après avoir défendu son titre contre Bad Luck Fale du Bullet Club, Okada désigne Omega comme son challenger à Dominion, donc là effectivement en 2017, si j'ai pas de bêtises. Et donc à Dominion, le match s'arrête avec un draw finalement, une égalité, puisque 60 minutes du match, il y avait une time limit, se sont écoulées et il n'y a pas eu de vainqueur décisif, donc Okada a gardé son titre. Donc ça c'était en juin 2016, pardon. Au G1 Climax, durant le tournoi, Omega rencontre Okada dans le cadre du tournoi et Omega gagne. Il perdra plus tard en finale contre Tetsuya Naito. Et puis en 2018, au Wrestling Dontaku, après avoir battu Hiroshi Tanahashi, hein, pour garder son titre, Okada, une fois encore, comme il avait fait il y a 2 ans, désigne Kenny Omega comme son challenger à Dominion. C'est Okada lui-même qui a proposé le fait qu'il n'y ait pas de limite de temps. Et là, Omega a dit « Ok, par contre, ce sera un 2 out of 3 falls ». Donc si on résume, ils sont déjà rencontrés 3 fois. Une fois, Okada a gagné. Une fois, il y a eu une égalité. Une fois, Omega a gagné. Là, c'est...
C'est la belle pour...
Est-ce que c'est le match décisif? En plus, 2 out of 3 falls, donc sans limite de temps. Donc déjà, clairement, on va avoir un match de plus d'une heure.
Ouais,
c'est
ouais,
évident.
Clairement.
Ça sert à rien de ne pas mettre limite de temps si on n'a pas un match de plus d'une heure. En plus, il faut au moins 2 tombées, si ce n'est 3, pour le match.
Ouais.
Combien de temps ce match va faire, qui va gagner, est-ce que Okada continuera à ce règne historique en tant que champion, est-ce que c'est le moment pour Omega, après avoir porté et lancé le titre américain, d'enfin toucher l'or ultime à la New Japan.
J'espère qu'ils sont décidés au niveau du booking de savoir qui c'est qu'ils allaient faire gagner déjà. Je pourrais mettre de l'argent sur Okada, hein, parce qu'il est, il a l'habitude de gagner quand même. Hein. Y a pas de raison qu'il perde ici. Il serait normal de le faire perdre quelque part au Wrestle Kingdom. Mais Omega, s'il y a bien un mec qui peut battre Okada, c'est Omega, quoi. Et il en a peut-être besoin. Il est dans une position bizarre, Omega, parce qu'il est plus, il a plus vraiment le Bullet Club derrière lui. Non. Il est dans ce personnage de babyface que je trouve complètement insupportable, là, des Golden Lovers. Il s'éteint en blond, il est toujours souriant comme un gogol, là. C'est pas le Kenny Omega, le cleaner qu'on avait vu, qui avait réussi à damer le pion à Okada à son époque. On n'est plus sur le même personnage. Non. Est-ce que c'est vraiment le moment pour lui d'être le champion IWGP de la New Japan? Je pense qu'il va débarquer quand même en cleaner. Ça va être un match exceptionnel, mais ils auraient tout autant à gagner à faire encore une victoire décisive d'Okada pour encore un peu plus imposer la légende. J'avoue que je suis perplexe, je vois plus Naito quand même renverser Okada au final. Donc je vais parier sur Okada. Hein.
Ouais, tu vois Okada continuer à...
Écoute,
règne,
pour moi c'est le dieu du catch, pour moi c'est le meilleur catcheur de tous les temps, c'est le meilleur
pour moi,
champion.
Moi c'est le dieu du catch. Bon, enfin, ouais, Rixet, tu lui fais des offrandes tous les soirs, un petit bol de riz avec des encens, c'est ça?
Je pourrais. Non, je pense que s'il n'était pas là, j'aurais décroché du catch peut-être sur les dernières années. Hein.
Ah oui.
C'est. Ouais. Non,
D'accord.
c'est quand même. Non, clairement, ce qu'ils ont fait déjà eux ensemble, c'est des matchs qui resteront historiques. Voilà, ça marque une date.
Déjà, si on regarde au niveau des scores, en termes de défense de titre, hein, Okada a eu 12 défenses de titre victorieuses hein, du AWGP Heavyweight, ce qui est une de plus qu'Hiroshi Tanahashi, hein, donc il a brisé ce record-là. Donc actuellement, Okada détient le record du plus grand nombre de défenses de titre victorieuses du titre. AWGP, ça, c'est déjà établi. C'est son quatrième règne, il est né à 714 jours
Ouais, c'est
de
clair qu'il est en train de battre tous
ceinture
les records et que ce serait
cumulé,
pas
hein,
non plus étonnant de le voir perdre.
c'est en règne combiné, je crois. Et en règne combiné, il est non, pardon, en règne combiné, il a 1500 jours, pardon. Il est numéro 1, voilà, nouveau
Ok,
record.
ça y est.
Okada est le numéro 1 en termes de jours combinés de règne. Et là, son règne actuel, c'est 714 jours. Est-ce que c'est plus que. Regarde en même temps en live, je vois rien qui va au-dessus de ça pour l'instant. Je remonte très loin là. 96, tout ça. Non, a priori, il a. Ouais, parce que Inoki en 87, il a gardé 325 jours. Ah non, a priori, il a tout pété les scores, quoi.
Ouais, c'est vraiment le plus grand champion de tous les temps. Est-ce qu'il faut que ça s'arrête tout de suite? Est-ce que ça peut pas continuer? Est-ce qu'on va pas avoir un catcheur qui va rester 7 ans champion comme les catcheurs de l'époque, les Bruno Sammartino, les Bob Backlund? C'est tendu, mais bon, en même temps, je pense qu'il commence à être usé. Hein, Okada, c'est plus le Okada des grands soirs non plus. Enfin, si, il va quand même nous sortir un match de malade, mais. Je pense qu'après ce match-là, s'ils font plus d'une heure, toi, auto free fall, il va être cassé de partout. Hein. Donc, ça va être aussi un peu délicat pour la suite.
Ouais, petite proposition de Camille. Et si Cody et ses partisans venaient pas pourrir la potentielle victoire de Kenny, afin de déclencher enfin la rivalité Omega Kenny à la New Japan de façon plus vénère qu'on l'a vu jusqu'à présent?
Ouais, ça pourrait être une belle porte de sortie
Ça
aussi.
pourrait, mais
Mais
est-ce que ça
est-ce
serait
que
pas
le
dommage? Ça serait pas
public.
gâché,
Ouais,
quoi.
ouais, 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 ouais. Ça, le public le prendrait peut-être mal. Hein. Ah, Diak est arrivé.
Salut Jax. Et salut Arnaud aussi.
Arnaud, j'ai pas vu passer. Mais oui, Okada wins. Lol. Bah oui, Okada wins toujours. Omega
Le
champion.
problème c'est
Omega champion WGP. C'est ça qu'on veut.
qu'est-ce que tu fais pas qu'est-ce que tu fais de Kenny Omega si tu lui fais pas gagner ça maintenant? Parce que
Ah, c'est
le
ça.
titre US il a lancé, il a porté, maintenant il a passé le bébé. Bon, c'est pas très bien porté actuellement par ce jubilé, mais c'est quand même le cas. Le champion intercontinental.
Faudrait qu'il regagne le G1 Climax derrière.
Encore?
Ouais, encore. Mais ça, c'est délicat. Hein. C'est délicat. Mais ouais, non, quelque part, c'est le bon moment aussi pour Omega. Hein.
Et c'est.
Allez, donnons-lui la victoire. On lui donne la victoire.
Non, c'est moi je donne. Moi je donne rien. On sait pas. Mais c'est ça qui est bon.
C'est pas, c'est
C'est quand
chaud.
tu vois qu'il y a un match comme ça de telle ampleur. Parce que c'est un match attendu. Je pense à énormément de gens, notamment qui regardent pas la New Japan. Vu la trilogie qu'ils ont sorti les dernières fois. Et quand tu te dis qu'il y a de très bonnes raisons pour que l'un comme l'autre gagne. Et de très mauvaises raisons pour que l'un ou l'autre perde. Et tu dis, bon, bah ok, c'est vraiment un match où tout est ouvert, tout est possible. Dans tous les cas, ça peut être intéressant. Dans tous les cas, on sait que ça va être juste fabuleux dans le ring. J'espère qu'ils vont bien utiliser la stipulation avec les plusieurs tombées hein, pour bien rythmer le match qui s'annonce extrêmement long. Voilà, mais le victorieux, le vainqueur, je ne peux pas passer de pléciette. C'est juste. On sera gagnant nous parce qu'on verra un match fabuleux. Voilà ce que je veux
Ouais,
dire.
c'est ce qui est sûr, c'est que ce sera nous les gagnants, ça c'est sûr.
C'est clair.
Parce qu'on a vraiment peu de chances d'être déçus. Hein. Je sais qu'il faut pas s'enflammer comme ça quand t'attends un truc, mais ce match-là, je pense qu'on va aussi le garder en mémoire pendant longtemps. On a c'est peut-être les deux meilleurs catcheurs du moment, peut-être les deux meilleurs catcheurs de la planète. Je crois qu'il faut se lever tôt, samedi matin, 9h. Et voilà, vous commencez bien le week-end.
On
Ou
verra.
tôt, excuse-moi.
On verra.
Ouais, verrons.
Je rentre pas forcément tôt. Moi, voilà. Donc, c'est effectivement samedi, 8h du matin, heure française. Moi, je ne regarderai pas du tout à 8h du matin. Un autre de ces quatre. Dans tous les cas, voilà. Hein, vous pouvez choper le live ou le replay sur New Japan World. Ou dans toutes les bonnes crèmeries. Et puis, bah, écoute, voilà, on a fait la carte de ce Dominion, hein, avec certains matchs un peu, on ne sait pas trop ce qu'on attend, d'autres qui peuvent être des bonnes surprises, certains potentiels show stealers, et puis effectivement, deux gros main events, voire un troisième avec ce match junior qui risque d'être assez, assez exceptionnel. Donc, du coup, ben, bon matage et visionnage à ceux qui regarderont tout ça, et puis on essaiera de se faire une petite vidéo une fois qu'on aura regardé ça de notre côté pour débriefer, pour en parler, voir comment on s'est planté sur les pronos, voir ce qui nous a surpris, ce qu'on a préféré, ce qu'on n'a pas aimé, commenter les nouvelles arrivées s'il y en a. Bref, ça sera très cool, et puis merci à tous d'avoir été sur le chat, hein, comme d'hab. Donc du coup, si vous voulez pas manquer le moment où on fera notre review ou les reviews des autres shows, pré-shows aussi à venir, seulement de Money in the Bank, il y a tes covers aussi, enfin bref, il y a plein de choses. Abonnez-vous sur la page YouTube en cliquant sur Abonnez-vous avec la petite cloche à côté pour recevoir une notification. Sinon, @catchupcdc sur Twitter et Facebook. Et vous nous trouvez aussi en audio sur iTunes et PodCloud. Ringside Sensei, domo arigato gozaimasu.
Allez, gros gâteau.
Allez, gros gâteau à toi et puis surtout à tout le monde. Hein. Donc, écoutez les petits potos, passez un très 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 bon week-end, plein de catch japonais. Et à la prochaine!
Ciao, ciao!
Salut!